La religion. La religion, dans ces sociétés, n'était pas parallèle à la vie sociale. Nous, aujourd'hui, avec notre. On a coupé, il y a la religion d'un côté, la vie en société, la vie politique. Dans ces sociétés primitives, il n'y a pas de distinction. Hein, c'est la religion qui impose l'organisation sociale. Elle en est le fondement. Donc il n'y a pas de distinction entre la sphère sociale et la sphère religieuse. Pas de distinction entre le profane et le sacré. Tout était sacré. Tout était sacré. Alors donc ces récits d'un passé mythique sont bien la clé de voûte de tout le dispositif social. Et là, il ne faut pas se laisser tromper par le fait que la représentation des divinités d'une société à l'autre paraissent très floues, hein, très, très floues, très ténues. Il y a beaucoup de fluidité, bon, on ne sait pas trop quand on l'étudie. Il y a toutes sortes de divinités et ça paraît... pas très carré, quoi. Or, il ne faut pas se laisser tromper par cette multiplicité de divinités, car en fait, l'organisation est radicale et ça induit une organisation tout à fait radicale. Et totale, quoi. C'est bien une totalité. Donc, la référence à un passé mythique totalement inaccessible et inquestionnable a permis de fait d'établir une coupure totale et sans appel entre la vie présente de l'individu en société avec les fondements et les forces supérieures qui la déterminent.
Tu cites quelqu'un ou...
Non, mais... Ça, je ne sais pas, mais bon. Je l'ai écrit, mais bon. Excusez-moi, mais j'ai été obligé d'écrire, effectivement, après oralement. Il m'aurait fallu plus de temps pour.
Il manque un schéma pour moi. Avec ce que tu as dit avant, tu expliques que les récits mythiques structurent l'organisation sociale. Mmh. Et là, tu viens de dire quelque chose. Tu peux redire ce que tu viens de dire
La référence à un passé mythique totalement inaccessible,
oui.
Ce qui est important,
oui.
Hein, parce que le fait que ça soit totalement inaccessible le rend inquestionnable,
oui.
On ne peut pas le remettre en cause,
oui.
Hein, il n'y a aucun élément qui peut remettre en cause.
Inaccessible parce que...
Parce que dans un passé tellement lointain, dans la nuit des temps, si je puis dire, hein, que il n'y a pas d'élément pour remettre en cause ces choses.
Il est accepté tel quel.
Il est imposé tel quel. Imposé. Et alors, donc là, les règles de vie donc, se confondent purement et simplement avec la loi du groupe. Il impose une loi au groupe, et donc toutes les règles de la vie, toutes les traditions, si je peux dire, il ne faut pas parler encore de tradition là, parce qu'il n'y a pas un cheminement historique. Hein. Mais toutes ces règles sont imposées de fait. Hein. Au groupe.
Il y a toujours un chef.
Hein?
Il y a toujours un chef.
Non,
non?
Justement pas. Il n'y a pas de chef.
Qu'est-ce qui...
Il n'y a pas de chef. Et alors voilà, ce qui structure, il n'y a pas de chef. Ce qui structure la société, c'est ça. C'est le groupe. On ne se pose pas de questions. C'est comme ça. Donc l'individu. Alors l'avantage. C'est extrêmement stable, mais la contrepartie, c'est qu'il y a une dépossession totale de l'individu.
Hein? Enfin, il n'y a pas de quoi, ils s'en foutaient, ils ne savaient pas que ça existait.
Alors, probablement, ça ne doit pas être si simple que ça. Hein? En sens que l'individu, il y a bien, dans chaque homme, on peut imaginer dans chaque homme un désir d'expression personnelle. Hein?
Et qui veut prendre.
Et qui devait pouvoir. Alors, le pouvoir, je pense que comme ils sont dans un monde totalement sacré,
oui.
Hein, le pouvoir, il est détenu par ce passé. Oui. Hein. Et
Et en fait, c'est un tâtonnement empirique qui, c'est une recherche à l'aveugle, quoi, qui fait qu'ils ont trouvé ces récits.
Ces récits, voilà, ces voilà. Récits. Et ces récits se sont constitués certainement pendant des millénaires,
ouais.
Parce qu'ils sont sophistiqués, ces récits. Ils sont sophistiqués. Ils font appel, effectivement, à des dieux, à des ancêtres, à des héros passés. Toute l'imagination, là, de ces...
Oui, mais ces récits, ils ont été transmis oralement, alors.
Oui. Ce, que mais ce sont des récits, transmission orale, c'est des peuples sans écriture.
C'est donc pour ça aussi qu'ils sont peut-être encore plus inaccessibles.
Voilà, ouais. Exactement. Ils sont encore plus inaccessibles. Alors,
ben, on peut s'interroger aussi comment naît un mythe.
Alors, voilà, c'est ça, là, c'est le mystère.
Le démarrage
de tout ça, c'est justement...
Ça reste encore de l'ordre du mystère.
Ben, on constate que ça s'est créé, qu'ils se sont créés au fur et à... Alors, par ces récits, ils ont canalisé la violence. Les groupes humains, a priori, l'individu, il est dans la rive, ça c'est René Girard, ce qu'il a appelé la rivalité mimétique. Naturellement, l'individu rentre en rivalité. Or, cette rivalité et cette violence est un facteur de déstabilisation. Or, ces peuples-là ont trouvé, mystérieusement, un moyen de canaliser cette violence pour permettre la stabilité du groupe. Et donc ce moyen, c'est le récit mythique et qui va se réactiver par le culte.
Et le sacrifice.
Le cœur du culte, ça sera le sacrifice. Et le sacrifice, on en rencontre partout, toutes les sociétés. Et là, quel que soit l'espace, quel que soit le lieu et le temps, alors, imaginez que c'est quand même un peu mystérieux, cette histoire de tuer un animal, probablement au départ de tuer des hommes, pour offrir aux dieux et pour rétablir une communion au sein du groupe. Donc, il devait y avoir des forces d'instabilité, et ces forces d'instabilité sont canalisées par la religion, par le culte et par les sacrifices.
Et transgresser, c'est puni.
La transgression, elle devait exister, si vous voulez, mais il devait y avoir justement des rites pour que dès qu'émerge une violence. Il devait en avoir, eh bien, il y avait tout un mécanisme qui se mettait en route. Le mécanisme du sacrifice. Alors, est-ce qu'on tuait la personne? Je pense que c'était des rituels, tous ces rituels qui sont sophistiqués, encore une fois. Et ces rituels ont permis cette canalisation de la violence. Globalement. Et donc, les rites qui sont aussi... qui jalonne la vie de ces groupes, elle a pour but de réactiver des forces originelles, ces forces originelles mythifiées. Et du coup, donc, permettre de désamorcer tous les facteurs d'instabilité au profit d'une communion du peuple. L'objectif, c'est que le peuple reste en communion. Et cette communion du peuple se paye au prix fort. Se paye au prix fort de du renoncement de chaque individu à sa propre personnalité. Donc il n'y a pas d'individualisme. Et toute l'histoire de l'humanité va justement être de faire ressortir l'individu. Aller jusqu'à notre époque à l'individualisme, à l'inverse de ces sociétés primitives, où c'est le groupe qui compte totalement, et c'est le groupe qui vit d'une façon stable et en communion, où les êtres sont en communion les uns avec les autres sans violence, et à l'autre extrémité de notre proc, c'est l'inverse, c'est l'individualisme qui compte, et à ce moment-là, régénère de la violence et de la stabilité. Bon, c'est très raccourci, parce qu'entre les deux, il va se passer beaucoup de choses, et d'autres mises en place, d'autres forces pour canaliser et pour circonscrire cette violence. Alors, vous voyez bien que là, dans ces sociétés, il n'y a pas de morale qui compte. Il n'y a pas de morale, c'est des comportements qui sont imposés, il n'y a pas de morale individuelle. Il n'y a pas de création non plus, on ne crée pas, on a subi le mythe, on le subit et on en fait partie. Il y a une appartenance absolue et on ne sort pas de cette appartenance.
Mais par les comportements, ça, d'une manière sous-jacente, il y a quand même, si on transgrée le groupe, je ne sais pas si on.
Alors bon, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait donc des moyens de canaliser ces émergences d'individualisation. Et ils étaient extrêmement forts. Hein, extrêmement forts. Et il faut voir que ces forces, je vous définis dans les sociétés primitives, mais elles ont existé, elles existent au Moyen-Âge. Hein, Moyen-Âge, personne ne pouvait se dire incroyant. Ce n'était pas possible. Hein, donc si vous étiez incroyant, eh bien, vous étiez mis en marge de la société. Hein, vous étiez brûlé, mis en marge de la société, de toutes sortes de choses. Hein. Vous voyez bien que ces forces-là sont extrêmement puissantes.
Hein. Mais en fait, moi, je me pose toujours la question, on explique comment ces sociétés se sont mises en place, mais comment a-t-on trouvé les preuves de cette...
C'est un constat. Disons que, bon, je ne rentre pas dans le détail des recherches, mais c'est un constat. Hein, ils partent d'un constat. Alors, Lévi-Strauss, lui, a développé l'aspect récit, récit mythique, en a montré la très grande complexité et la très grande richesse. René Girard, lui, alors par contre, avant René Girard, il n'y avait pas d'explication sur ce phénomène du sacrifice. Et le sacrifice était à la fois universel et inexpliqué. Hein? Il n'y avait pas d'explication, alors que le phénomène était universel. Hein? Donc lui s'est penché sur et a donné une explication. Hein? Alors ces explications qu'il donne, ce sont des hypothèses, forcément. Hein? Hein? Ce sont des hypothèses. Mais ces hypothèses se trouvent quand même confirmées. Par la suite des évolutions.
Et juste une chose, il n'y avait pas d'individualité, mais en même temps, chaque individu, si on peut employer ce terme-là, avait une place assignée. Par exemple, l'histoire s'est montrée dans les systèmes de parenté, de mariage, etc., qu'en tant que femme de tel groupe, on était, assigné à... Donc, c'était des groupes. À ce moment-là, il y avait quand même... pas une individualisation, mais les places étaient assignées.
Voilà, il y avait une organisation sociale, avec des places précises, pour chacun. Et donc, l'individu était placé, mais il ne pouvait pas déroger. Ça lui était totalement imposé.
Au risque de sortir de la tribu.
De la tribu, et alors là, c'était la mort. Quand vous sortez de la tribu, c'était la mort.